Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 22 mars 2022. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, décès en détention de l'ex-premier ministre Soumelou Boubey Maïga.
Toujours au Mali, 4 soldats ont été tués dans 2 attaques djihadistes distinctes dans le centre et l'est du pays.
Au Nigeria, au moins 16 villageois ont été tués dans une attaque dans le nord-ouest.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à discuter du Donbass et de la Crimée avec son homologue russe Vladimir Poutine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'ancien premier ministre malien Soumelou Boubey Maïga est décédé hier à l'âge de 67 ans à Bamako. Il était en détention dans le cadre d'une affaire de fraude présumée. Sa famille avait alerté sur son état de santé. Abdourahmane Dia.
L'ancien chef du gouvernement sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier lundi dans une clinique de Bamako, entouré de gardes selon un membre de sa famille. Le président nigérien Mohamed Bazoum dit sur Twitter avoir appris avec consternation la mort de M. Maïga, la qualifiant d'assassinat. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Gassim Wane, se disent attristés. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a aussi présenté ses sincères condoléances à sa veuve dans un tweet. Après une détérioration de son état de santé, des médecins avaient demandé son évacuation à l'étranger pour des soins. Son épouse avait saisi le 2 mars le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, dans une lettre ouverte au sujet, je cite, de l'état critique de son mari. L'ancien premier ministre avait été incarcéré après avoir été inculpé notamment de faux, usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et sur l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense.
2 soldats maliens ont été tués hier à Boni dans le centre du pays et 2 autres à Tessit dans l'est lors de 2 attaques djihadistes distinctes repoussées par les militaires selon un communiqué des FAMA, les forces armées maliennes.
Dans l'embuscade de Boni qui a également fait 7 blessés dans leur rang, les FAMA disent avoir riposté en tuant 13 assaillants et en interpellant 2 terroristes. À Tessit, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Niger, dans la zone dite des 3 frontières, un poste des FAMA a été attaqué et l'armée a enregistré, outre les 2 morts, 10 blessés.
Toujours selon le communiqué, les FAMA ont repoussé vigoureusement l'attaque. 9 morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne. L'armée conclut son court communiqué en précisant que le ratissage continue à fond pour nettoyer ces secteurs.
Au Nigeria, la police a annoncé hier que des hommes armés ont tué dimanche au moins 16 villageois lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays. Dernière violence en date imputée à des bandes criminelles lourdement armées. La presse locale évoque quant à elle un bilan bien plus élevé avec au moins 37 morts dont le chef du village et des dizaines de personnes kidnappées.
Les États-Unis surveillent les mouvements financiers du groupe État islamique en République démocratique du Congo en vue de les perturber efficacement. C'est ce qu'a indiqué hier Brian Nelson, sous-secrétaire au département américain du Trésor, chargé du terrorisme et du renseignement. Nanit Talani.
Au sujet du lien entre la corruption et le financement du terrorisme, les États-Unis surveillent la capacité de Daesh de lever, conserver et transférer des fonds à partir de la RDC et de la région, déclare le communiqué de Brian Nelson. Washington affirme vouloir travailler étroitement avec le gouvernement de Kinshasa pour combattre Daesh et faire de la RDC un environnement hostile pour ce groupe terroriste. Cet effort comprend le traçage et la perturbation efficace de leurs finances. Brian Nelson a effectué une visite à Kinshasa du 16 au 18 mars, durant laquelle a été évoquée la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, explique le communiqué. D'origine ougandaise, le groupe ADF est présenté par l'organisation djihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale. Depuis mars 2021, les États-Unis ont placé les ADF sur leur liste des organisations terroristes. Les ADF sont accusés de nombreux massacres dans l'est de la RDC et de récents attentats en Ouganda. Depuis fin novembre, les forces armées congolaises et ougandaises sont engagées dans une opération conjointe contre les ADF.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La juge Ketanji Brown Jackson, nommée à la Cour suprême des États-Unis, doit maintenant convaincre les sénateurs de valider ce choix et faire d'elle la première femme noire à siéger au temple de justice américaine. Le point avec Jenny Kapumbu-Villa.
Âgée de 51 ans, la juge Ketanji Brown Jackson est auditionnée depuis hier lundi par la commission judiciaire du Sénat américain. Jusqu'à jeudi, elle devra répondre aux questions de 11 sénateurs républicains et 11 sénateurs démocrates avant un vote en séance plénière probablement début avril. Les élus sont combatifs parce que la Cour tranche énormément de sujets cruciaux, dont certains sont explosifs, comme le droit à l'avortement ou de porter une arme à feu, relève Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie. Avant que son nom ne soit révélé, certains élus républicains avaient reproché au président sa promesse de nommer une Afro-américaine. Les femmes noires représentent quoi? Disons 6% de la population américaine, avait dénoncé le sénateur républicain Ted Cruz. Ketanji Brown Jackson devrait être interrogée sur sa défense en tant qu'avocate de détenus de Guantanamo et ses jugements dans d'horribles affaires pénales. Si elle obtient le feu vert des sénateurs, elle va siéger à partir de la rentrée prochaine au sein de la Cour suprême la plus inclusive de l'histoire américaine, avec 3 autres femmes et un magistrat africain-américain, mais qui sera toujours dominé par une écrasante majorité de juges conservateurs.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt hier à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un compromis sur le Donbass et la Crimée pour arrêter la guerre. Tout compromis au sujet de ces territoires devra toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum et être accompagné de garanties de sécurité pour son pays, a-t-il cependant averti. Et il a également prévenu que l'Ukraine sera détruite avant de se rendre.
La Russie a convoqué hier l'ambassadeur américain et accusé le président Joe Biden d'avoir conduit les relations entre Moscou et Washington au bord de la rupture par ce que les autorités russes qualifient des déclarations indignes visant son homologue Vladimir Poutine. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les déclarations du président Joe Biden qui a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de criminel de guerre pour son offensive en Ukraine sont indignes d'un homme d'État de haut rang, a estimé le ministère russe des Affaires étrangères après convocation du représentant américain à Moscou. Le ministère a dit avoir signifié à l'ambassadeur américain John Sullivan que de telles remarques conduisent les relations russo-américaines au bord de la rupture. Joe Biden avait pour la première fois qualifié la semaine dernière le président russe Vladimir Poutine de criminel de guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait dénoncé une rhétorique inacceptable et impardonnable. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a réaffirmé hier que les commentaires du président Biden font référence à l'horreur de la brutalité de la Russie contre un voisin innocent. Cependant, il n'a pas voulu confirmer le risque de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
Par ailleurs, le président américain Joe Biden a déclaré hier qu'il est clair que la Russie est en train de considérer l'utilisation d'armes chimiques et biologiques en Ukraine et il a mis en garde contre une éventuelle réponse occidentale sévère si Moscou venait à le faire.
Il est dos au mur, a dit M. Biden, parlant de son homologue Vladimir Poutine. Il a noté que la Russie a récemment accusé les États-Unis d'avoir des armes chimiques et biologiques en Europe. C'est simplement faux, je vous le garantis, a-t-il assuré, en s'adressant à Washington, à des leaders du monde des affaires.
La Russie a amplifié ses opérations aériennes et navales en Ukraine face à la résistance des forces ukrainiennes qui continue de freiner l'avancée de l'armée russe dans le pays, a indiqué hier un haut responsable du Pentagone.
Un centre commercial de la capitale ukrainienne a été ravagé par un bombardement russe qui a fait au moins 8 morts, selon les autorités. Moscou affirme avoir ciblé une cache d'armes, tandis que l'Union européenne a qualifié lundi la dévastation de la ville assiégée de Mariupol des crimes de guerre majeurs. L'Union européenne a décidé de doubler son soutien financier pour les achats d'armement envoyés à Kiev.
Les leaders ukrainiens ont accusé les forces russes d'avoir tiré sur des manifestants non armés dans la ville occupée de Kherson, dans le sud de leur pays. Des vidéos semblent montrer des habitants tentant de fuir face aux tirs de semences, des grenades assourdissantes, gaz lacrymogène. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le groupe italien Eni reprend ses exportations de pétrole brut et de gaz dans le sud du Nigeria, où elles ont été suspendues après l'explosion d'un oléoduc. Les réparations du pipeline endommagé sont terminées. L'explosion, survenue à Nembe dans l'état de Bayelsa, a provoqué lundi dernier un déversement de pétrole et entraîné une réduction de 25 000 barils par jour des exportations du terminal de Brass. C'est la deuxième explosion sur les installations d'Eni en quelques jours. Le 28 février, un incident pareil a entraîné une baisse de production de 5 000 barils par jour dans la station d'écoulement d'Obama. Le Maroc va aider financièrement les transporteurs routiers frappés par la flambée des prix de l'essence à la pompe. Le gouvernement a choisi d'intervenir afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, indique le ministre du Transport, Mohamed Abdeljalil. Les modalités et les montants de l'aide devront être fixés dans un délai de 2 semaines. Plusieurs syndicats du transport routier ont observé une grève de 5 jours la semaine dernière pour exiger le plafonnement du tarif des carburants et des marges des distributeurs d'hydrocarbures. Terminons par la livre égyptienne qui a perdu brutalement 13% face au dollar en une journée. Le taux de change de la livre égyptienne est passé de 15,7 à 17,8 livres pour 1 dollar. Pour freiner la dévaluation, la Banque centrale égyptienne, réunie en urgence, a relevé les taux d'intérêt d'un point.
Merci Nani. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Coup dur pour la Tunisie à 3 jours de sa double confrontation contre le Mali. En barrage du mondial à Qatar 2022, zone Afrique, la Fédération tunisienne de football annonce les forfaits du défenseur central Dylan Brown de Metz et de l'attaquant Wabi Kazri de Saint-Étienne. Blessé et indisponible pour la double confrontation, les Tunisiens pourront par contre compter sur Naïm Sliti et Elias Cherki. Blessé en club, Sliti a participé à l'entraînement dimanche et Cherki arrive à Tunis aujourd'hui. Les Aigles de Carthage affrontent leurs homologues maliens les 25 et 29 mars prochains. Pour la première fois de son histoire, le club anglais de Manchester City s'est emparé de la place la plus haute de la Football Money League du cabinet d'Elliott qui classe les clubs en fonction de leurs revenus générés par le football. Les revenus du vainqueur de la Premier League en 2021 s'élèvent à 644,9 millions d'euros pour la saison 2020-2021, en hausse de 17%, ce qui propulse City de la 6e position à la première place sur la liste des 20 clubs générant le plus de revenus dans le football mondial. Le club de Premier League s'invite ainsi à la table du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester United, les seuls autres clubs à s'être partagé la plus haute marche du classement depuis qu'il existe. La Russe Elena Lashmanova a été suspendue pour 2 ans et déchue de ses titres pour usage de substances illicites. L'annonce a été faite par l'agence antidopage Athletic Integrity Unit, championne olympique en 2012 et championne du monde en 2013 du 20 km marche. L'athlète russe va aussi perdre ses médailles d'or acquises en raison de la disqualification de ses résultats allant du 18 février 2012 au 3 janvier 2014. Lashmanova a accepté la sanction, précise l'agence antidopage sur Twitter. La marcheuse de 29 ans avait déjà été suspendue pour 2 ans, de juin 2014 à février 2016, après avoir été contrôlée positive à l'endoborol en janvier 2014.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'était une figure importante de la vie politique malienne. Soumaïlou Boubé Maïga est mort lundi à l'âge de 67 ans à Bamako alors qu'il était en détention dans le cadre d'une affaire de fraude présumée. L'ancien Premier ministre était tombé malade et sa famille avait lancé des alertes sur la dégradation de son état de santé. Pour le journaliste Alexis Kalambri, fondateur du journal Mali Tribune, la mort de Boubé Maïga suscite des interrogations en raison de la façon dont il a été traité. Joint par Bagassikoura à Bamako, Alexis Kalambri.
C'est vraiment une triste nouvelle hein, et une nouvelle qui interpelle toute la classe politique, toutes les consciences nationales. Il a été un militant, un grand militant. Il a incarné à un moment donné la nation malienne, l'État malien. Il a servi l'État malien au plus haut niveau. Sa disparition ne peut qu'affliger. Sa disparition dans ces conditions ne peut qu'interpeller et nous faire vraiment nous interroger sur beaucoup de questions.
Quand vous parlez de conditions, on imagine que vous parlez de sa condition de détenu.
Pas seulement de sa condition de détenu, mais le fait que voulant aller se faire soigner, il n'a pas été autorisé malgré l'avis médical, malgré les multiples sollicitations de sa famille. Je pense qu'il y a eu un radicalisme qui n'avait pas lieu.
Et comment aujourd'hui on réagit à cela à Bamako?
Oui, pour le moment, c'est trop tôt. C'est une nouvelle qui est tombée comme un coup de massue. Les uns et les autres sont sonnés vraiment sous le coup du choc. Beaucoup n'ont pas pris la mesure et ne pensaient pas que c'était aussi grave. Je pense que les réactions vont prendre un moment.
Un mot sur le parcours de Maïga, quelqu'un qui a dirigé les affaires du Mali au haut niveau.
Soumaïlou, on se souvient de lui encore, journaliste sur les images, journaliste au quotidien national, debout devant le président de la République pendant le parti unique, en train d'interpeller le président sur des questions avec une assemblée qui tremblait devant l'audace de ce jeune journaliste. On se rappelle de son combat et de son engagement pour la cause démocratique. Dès que l'ADEMA a eu le pouvoir, il a été nommé directeur de la sécurité d'État, une nouveauté, un journaliste civil qui prenait les rênes des services de renseignement du Mali. C'est le directeur de la sécurité d'État, ministre de la Défense, candidat à la présidentielle, ensuite ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de la présidence et premier ministre. Il a vraiment été pendant ces 30 dernières années au sommet de l'État et, comme je le disais, l'a incarné.
Le journaliste Alexis Kalambri, fondateur du journal Mali Tribune.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
En République centrafricaine, ouverture hier des travaux du dialogue républicain. Ces pourparlers pourraient se dérouler sans l'opposition qui a menacé de se retirer si ses préalables ne sont pas pris en compte. Durant 7 jours, plusieurs thématiques seront abordées par les participants. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Les travaux ont été lancés officiellement ce lundi par le président Faustin Archange Touadéra. Le chef d'État centrafricain a estimé que ces pourparlers ne sont pas un dialogue de trop, mais plutôt une chance donnée à la paix.
Nous sommes réunis ici, non pour faire le procès de l'opposition ou de la majorité présidentielle, mais pour percer l'abcès, panser nos plaies, nos meurtrissures, personnelles ou collectives, cesser nos querelles et enterrer la de guerre. Les résolutions et recommandations issues de nos nombreux forats, loin de régler la crise centrafricaine, ont plutôt été vues comme des tremplins pour accéder aux hautes fonctions de responsabilité de l'État ou au pillage des ressources du pays. Le dialogue républicain n'est pas un dialogue de trop. C'est une autre occasion, une chance donnée à la paix.
L'ancienne présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, se réjouit de l'organisation de ce dialogue, mais déplore la faible représentativité des femmes dans le présidium.
Un dialogue doit être permanent. Il ne doit pas être exceptionnel quand il y a des crises. Si le dialogue est permanent, il prévient les crises. Il permet de débattre des questions qui fâchent, des questions qui bloquent la marche du pays. J'ai été frustrée quand j'ai vu la composition du présidium. Deux femmes à la fin de tous les responsables du présidium. Ça m'a frustrée pour toute la bataille que les femmes et moi avons menée pour les mettre à un certain niveau de décision.
Le dialogue doit être permanent, mais l'opposition a menacé de se retirer car, dit-elle, ses préalables n'ont pas été pris en compte. L'ancien Premier ministre Nicolas Tshangai, porte-parole de la CO 2020, la coalition de l'opposition démocratique.
L'opposition a fait des propositions de thématiques à retenir, dont la crise post-électorale, la réforme structurelle des institutions républicaines et la signature d'un accord politique par les entités participant au dialogue républicain. Et donc, ces thématiques ont été rejetées par le pouvoir. Nous considérons ces exigences-là comme des lignes rouges à ne pas franchir. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, il est évident que nous ne participerons pas à ce dialogue-là.
Les réactions n'ont pas tardé au sein de la majorité présidentielle. Mathurin Dimbélé Nakoué, coordonnateur du mouvement Centrafrique Debout, qualifie d'absurde la décision de l'opposition.
C'est absurde parce que les raisons invoquées ne sont pas fondées, ne sont pas des raisons qui puissent commander leur retrait de l'organisation de ce dialogue-là. Ils étaient dans le comité préparatoire, ils ont travaillé ensemble, ils ont travaillé en toute transparence et au dernier moment, pour des motifs à mon avis pas valables, ils déclarent qu'ils se retirent. Alors, nous on peut prendre que le peuple à témoin, le peuple doit comprendre que ces messieurs-là, c'est véritablement des gens qui n'aiment pas la paix.
Nous espérons que les leaders de l'opposition reviendront très vite à de bons sentiments et prendront leur siège à ce dialogue, car des discussions sont en cours, a déclaré à VOA Afrique un membre du comité préparatoire de ce dialogue. Après la cérémonie d'ouverture, les quelques 450 participants sont répartis en commissions thématiques pour des travaux qui prendront fin le 27 mars prochain. Fumansi Pila Bongui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Cameroun, le gouvernement affirme que la guerre de la Russie contre l'Ukraine est responsable d'une pénurie de blé qui a entraîné une augmentation de 40% du prix du pain. Les autorités camerounaises encouragent les substituts locaux comme le manioc pour remplacer le blé importé de Russie et d'Ukraine. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Une quarantaine de consommateurs font la queue devant la boulangerie La Mama à Mokolo, quartier de Yaoundé. Le caissier Youssoufa Daouda affirme qu'au cours des deux dernières semaines, la boulangerie n'a pu servir que 200 clients sur les 500 qu'elle avait l'habitude d'approvisionner chaque jour.
Nous avons eu une annonce du fait que le prix de la farine allait augmenter vu les fluctuations du prix du blé au niveau du marché mondial. Donc on va s'arrimer, on va engager une discussion avec notre ministère de tutelle. La farine coûte 19 900, le sac de 50 kilos. Les hausses annoncées, nous sommes dans les 24 000 francs.
13 des 26 millions de Camerounais qui consomment du pain quotidiennement n'ont plus un approvisionnement régulier selon les chiffres de l'État. Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a présidé lundi une réunion avec des boulangers et des importateurs de blé. Il affirme que la réunion visait à informer les consommateurs sur les causes de la pénurie de blé.
Quelqu'un qui viendra dire que cette crise n'aura pas d'impact, ce qui ne dit pas la vérité. Nos importations de blé dépendent à 59% de la Russie et de l'Ukraine. Le problème donc c'est de savoir comment on fait quand vous avez sur une filière aussi sensible que celle-là.
Deux autres réunions convoquées par le Premier ministre Joseph Ndongwe ont suivi. Selon M. Atangana, M. Ndongwe a demandé au ministre en charge de l'agriculture et du commerce de trouver des alternatives aux importations de blé. L'année dernière, le pays a importé plus de 850 000 tonnes de Russie et d'Ukraine. Delors Magellan Kamseou Kamgain est le président de la Ligue des consommateurs du Cameroun qui regroupe plusieurs dizaines d'organisations.
On n'est pas obligé de manger le pain fait avec le blé importé. Il y a un autre plein de combat qu'on ne trouve que dans les axes routiers, qu'on peut industrialiser la production. Il y a également d'autres farines locales qu'on peut utiliser pour faire du pain. Donc nous pensons que la solution doit être locale et maintenant.
D'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient sont également confrontés à des pénuries de blé en raison de la guerre en Ukraine. Lundi, le directeur du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, Gilbert Umbo, a averti que la situation pourrait provoquer une escalade de la faim et de la pauvreté, avec des conséquences désastreuses pour la stabilité mondiale.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'accès à l'eau potable en Afrique dans un contexte de changement climatique. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient du 21 au 26 mars à Dakar sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Alors qu'en Amérique du Nord, un habitant a accès en moyenne à 250 litres par jour, dans le Sahel, le ratio est d'une personne pour moins de 10 litres. Comment résoudre la question de l'accès à l'eau potable en Afrique? Comment éviter qu'il ne soit source de conflits entre pays ou entre communautés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Début hier, ici à Washington, la commission judiciaire du Sénat américain des auditions de Ketanji Brown Jackson, qui pourrait être la première femme noire à siéger à la Cour suprême des États-Unis. Cette juge progressiste doit convaincre les sénateurs qu'elle est qualifiée pour occuper ce poste et remplacer Stephen Breyer, qui prendra sa retraite à l'été. Cela n'empêchera pas les conservateurs de rester majoritaires au sein de cette très influente institution. Sur l'importance de ces auditions de la juge Jackson à la Chambre haute, Abdourahman Dia a joint ici à Washington Marilyn Sefocle, professeure de langue à Howard University.
Alors c'est extrêmement important, tout d'abord parce que cette juge est africaine-américaine et donc qu'il n'y a jusqu'à maintenant pas eu de femme africaine-américaine juge à la Cour suprême, et donc c'est un moment extrêmement important. Et les femmes noires américaines, africaines-américaines, jusqu'à maintenant, ont toujours été, quand la justice donnée ne s'est pas penchée justement de leur côté, eh bien c'était surtout dans les cas qui affectaient des Africains-américains, et donc qu'il s'agit des femmes, des mères, des filles, de ces personnes qui ont souffert, si vous voulez, de la justice qui n'avait pas été rendue. Dans beaucoup de cas, la liste serait extrêmement longue de cas qui ont figuré dans l'histoire américaine. Donc avoir une femme africaine-américaine juge, c'est un pas important dans le système judiciaire américain.
Vous pensez qu'elle sera confrontée à quelques défis pour sa confirmation? Certains de ses critiques la voient comme étant trop progressiste ou assez clémente dans ses jugements.
Alors évidemment, les confirmations au niveau du Sénat, surtout pour les juges à la Cour suprême, comme vous le savez, n'ont jamais été un exercice extrêmement simple. Elle aura évidemment des détracteurs, cela va de soi. Mais enfin, en tout cas, on espère qu'elle sera confirmée.
Tous les républicains, effectivement, ne sont pas forcément à bord pour l'instant. Et les démocrates ont une très courte majorité. Quels peuvent être les atouts qu'elle peut mettre en avant pour justement passer son problème?
Il y a l'atout qui est vraiment tout à fait évident. C'est qu'une Cour suprême américaine qui inclut tous les segments de la population américaine, cela devrait être forcément une Cour suprême qui reflèterait beaucoup mieux le pays. Madame Jackson, Ketanji Brown Jackson, elle est une mère de famille, ça c'est très important. Elle a dans sa famille aussi des personnes qui ont été confrontées à la justice, donc ça c'est aussi un point important, parce que quand on est juge, un robot qui applique la loi, on est aussi une personne humaine qui a vécu un certain nombre de choses, qui vient à la Cour suprême avec justement tous ses atouts.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia et John Linden, Georges Léonard Sagno à la mise en onde, Kelvin Fowler à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.